Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Vous avez maintenant l'habitude. C'est à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse. Mais juste une précision concernant le passage qu'on avait vu la semaine dernière qui a soulevé quelques questions. Quand Jude parle des anges au verset 6, qu'il fait référence à Genèse 6, il s'appuie en fait sur l'interprétation de son époque, à la fois dans les synagogues et dans l'Église primitive, composée essentiellement de chrétiens d'origine juive, qui affirmaient que Genèse 6 fait référence à des anges. Et cette interprétation a été abandonnée au IIe siècle dans les synagogues et à partir du IIIe siècle dans l'Église pour affirmer finalement que les fils de Dieu fait référence à des hommes. Mais Jude s'appuie sur ce que ses lecteurs savaient, comme il le dit au verset 5. Donc l'interprétation que Genèse 6 faisait référence à des anges. Et donc le scénario, comme John Benton le rappelle dans son livre « Comment garder la foi » publié chez Europresse, il dit « Mécontents du rang que Dieu leur avait assigné, les anges se sont révoltés contre lui et lui ont désobéi. Ils s'attirèrent ainsi son jugement. » Et Jude s'appuie là-dessus pour exhorter ses lecteurs à ne pas suivre ni l'exemple des anges, bien entendu, mais ni l'exemple de ces intrus qui font de la même manière, qui se sont infiltrés dans l'Église et qui, par leur vie, par leur enseignement, rejettent l'autorité de Dieu, comme les anges l'ont fait, rejettent la parole de Dieu, se révoltent contre Dieu, ne se soumettent pas à lui. Et c'était dans la partie que j'avais appelée l'autonomie rebelle. Et ces hommes vivaient cela, ils enseignaient cela. Mais comme la condamnation des anges est certaine, la condamnation de ces hommes aussi est certaine. J'espère que ça va clarifier certaines choses et peut-être que ce que nous allons voir ce matin va permettre aussi de clarifier certaines choses. On va continuer donc dans Jude et on va lire les versets 8 à 10. Jude, versets 8 à 10, et voilà, voici la parole de Dieu. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Et c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le titre Invictus. C'est par exemple le nom qui a été donné au jeu handisport que le prince Harry a monté pour aider les blessés à se reconstruire, et en particulier les blessés de guerre. Mais c'est aussi le titre d'un film de Clint Eastwood qui retrace les événements en Afrique du Sud avant et pendant la Coupe du Monde de rugby en 1995. Et dans ce film, il y a la référence d'un poème, la citation d'un poème même, qui a donné le nom au titre à ce film, un poème du milieu du 19e siècle qui a inspiré Nelson Mandela pendant sa captivité. Et dans ce poème, l'auteur, William Henley, tente de glorifier la bravoure, la persévérance de l'homme au milieu des défis et des difficultés insurmontables de la vie. Mais dans ce poème, il va aussi se tourner vers les questions spirituelles et en particulier vers la question de la vie après la mort. Et quand le poème arrive à cette question, ce courage, cette audace vont se transformer en une assurance sans fondement, qui affirme qu'il n'a pas besoin de craindre le jugement après la mort, qu'il n'y a pas d'autorité dans la vie autre que l'auteur du poème lui-même. La dernière strophe proclame de manière effrontée que, quelles que soient les contraintes morales auxquelles quelqu'un serait tenté de nous tenir responsables, quel que soit le jugement ou la condamnation après la mort, nous sommes, dit le poète, la seule autorité de nous-mêmes. La traduction va ainsi, aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Voilà l'homme qui met son espérance dans la puissance de l'esprit humain. Mais en réalité, ce n'est l'homme qui lève son poing contre le ciel et qui se révolte contre Dieu. Il y a quelque chose de cette nature chez ces hommes qui se sont infiltrés dans l'Église, contre lesquels Jude écrit dans sa lettre quand il avertit à ses lecteurs de ne pas se laisser influencer par ces intrus. Ces hommes enseignent un christianisme libéré de toute morale. Ce que Paul pourra dire, par exemple, en Romains 6, verset 1, ceux qui disent de demeurer dans le, ceux qui veulent demeurer dans le péché afin que la grâce abonde. Et Jude, dans ces versets, va dénoncer cet antinomisme, le fait d'être contre la loi. Il y a comme une accélération dans ces versets de cette dénonciation de ces intrus. Et le but de Jude, bien entendu, c'est la sécurité spirituelle de ses lecteurs à qui il s'adresse. Ce que Jude avait déclaré au verset 4 au sujet de ces hommes, il va maintenant le développer. Ces hommes ont perverti la grâce de Dieu. Ils l'ont changé en dérèglement et ils renient notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et la leçon pour les croyants, c'est qu'alors que nous voyons la nature de cet antinomisme être révélé, être dévoilé, nous devons nous appuyer encore plus sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour vivre une vie fidèle à sa parole, à la foi qui a été révélée, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dans ces versets 8 à 10, Jude dénonce cet antinomisme et nous montre trois éléments. Il va nous montrer son autonomie, son audace et les instincts ignorants que cela produit. Tout d'abord, le premier élément, premier point, l'autonomie de cet antinomisme. Et au verset 8, on a les accusations de Jude qui nous dévoilent cinq caractéristiques de cette nature autonome, de ce mode de vie antinomien. La première caractéristique, c'est l'insouciance. Jude commence au verset 8, « Malgré cela, ces hommes aussi. » Jude fait la connexion entre ces intrus qui se sont infiltrés dans l'Église avec les trois images de l'Ancien Testament qu'il a données dans les versets 5 à 7 que nous avons vus la dernière fois. Jude a utilisé ces images, ces types, pour montrer que le jugement qui arrive sur ces choses est connu. Dieu condamne ces choses. Ce jugement a été annoncé depuis longtemps. Et la force de ce verset 8, on pourrait le traduire cela, c'est-à-dire malgré cela, c'est en dépit de connaître ces choses, sans se soucier de tout ce que la parole de Dieu révèle déjà, ces choses qui ont été annoncées, ces hommes font exactement la même chose. Et cela va les mener à la même fin. Ils vont être jugés et condamnés. Le commentateur dit, en dépit de ces exemples bien connus du châtiment divin, en particulier en dépit du fait que la punition de Sodome est évidente pour tous, ces gens commettent les mêmes péchés. La finalité de leur message, la fin de leur vie ne sont pas un secret, un mode de vie d'immoralité et de péché à qui on a donné un laissez-pas en le couchant dans un vocabulaire de grâce, ce mode de vie se terminera toujours sous la condamnation de Dieu. Et malgré cela, ces hommes continuent, sans être perturbés. Il y a une insouciance totale dans cette autonomie de cette vie, de ce style de vie antinomien. Et le but de Jude, donc, c'est d'avertir ses lecteurs, d'avertir les croyants qui lisent ces versets de ne pas suivre ces hommes, de ne pas être aussi insouciant, aussi impertinent. La deuxième caractéristique de l'autonomie, de l'antinomisme, c'est sa pollution. Je poursuis au verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair. C'est un vocabulaire qui est utilisé dans la sphère de pureté ou de souillure. On a l'image ici soit de faire une tache, voire même de teindre quelque chose dans une autre couleur. L'idée, c'est d'avoir la pureté de quelque chose qui est souillé par un comportement immoral. Bien entendu, je vais faire référence à l'immoralité de ces hommes, de ce qu'il a décrit dans les versets précédents. Mais la parole de Dieu, rappelez-vous, Paul, par exemple, en 1 Corinthiens 6, verset 18, écrit ceci: fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Et la grâce de l'Évangile ne doit pas être utilisée comme une licence pour l'immoralité, pour le péché. Paul écrit en 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mais dans cette notion de pollution, il y a aussi l'idée d'un franchissement inapproprié d'une limite qui a été donnée. Et Jude souligne, quand il connecte ce qu'il dit au sujet de ces intrus avec les exemples qu'il a donnés dans les versets 5 à 7, il parle de ces hommes aussi. Ils souillent pareillement leur chair. Le point de Jude, dit un commentateur, le point de Jude concernant les hérétiques est qu'ils ont transgressé les limites appropriées, comme l'ont fait Israël, les anges, Sodome et Gomorre. Ils avaient souillé la chair. Et par leurs actions et par leurs messages, ces intrus proclamaient que quand ils venaient aux limites définies par la parole, dans la parole de Dieu concernant l'éthique, la morale, la pureté, les règles ne s'appliquaient plus à eux. La pollution de l'antinomisme. Troisième caractéristique de cet antinomisme, de l'autonomie de l'antinomisme, c'est une rébellion pure et simple. Jude continue au verset 8. Ces intrus méprisent l'autorité. Certains pensent ici qu'il s'agit de l'autorité civile, l'autorité de l'Église, voire peut-être même de l'autorité de créatures angéliques. Mais la racine de ce mot utilisé par Jude est le mot que l'on traduit par Seigneur. Et bien sûr, Jude nous renvoie à l'accusation du verset 4, que ces intrus renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et dans sa lettre, Jude va utiliser des mots clés comme cela pour relier les versets entre eux. L'autorité dont Jude parle ici, c'est la souveraineté absolue de notre Seigneur Jésus-Christ sur toute chose, toute créature. Ces hommes non seulement souillent leur corps, mais ils se révoltent et contre l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, parce que le péché, l'immoralité, n'importe quel autre nom que l'on donne au péché, ces choses ne sont pas appelées ainsi parce qu'elles violent une certaine tradition judéo-chrétienne. Non, le péché, l'immoralité, ce sont des rébellions contre le Seigneur Jésus-Christ, contre la seigneurie de Jésus-Christ lui-même, dans son règne légitime sur toute chose. La quatrième caractéristique de cette autonomie de l'antinomisme, c'est la moquerie. Verset 8, Jude continue, ces intrus injurient les gloires. Le verbe injurier a beaucoup, une large signification, ça peut aussi dire blasphémer, ça peut aussi dire insulter, calomnier. Et encore une fois, c'est un de ces mots-clés que Jude va utiliser. C'est ce mot-clé qui relie ces versets 8, 9 et 10, parce qu'on le retrouve dans ces trois versets. Ces hommes injurient les gloires. Et la plupart des commentateurs comprennent que Jude ici fait référence aux anges. Alors qu'est-ce que Jude veut dire quand ces hommes injurient les gloires? Il y a quelques références dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à comprendre le rôle des anges, le rôle que les anges jouent, surtout dans l'ordre moral des choses. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, par exemple, fait référence à la transmission de la loi par des anges, par le moyen d'anges. Hébreux 2, versets 2 et 3. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et Paul, dans Galates 3, verset 19, écrit de manière explicite que la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Don Carson, dans son commentaire de l'usage de l'Ancien Testament par le Nouveau, écrit ceci. « Les anges sont parfois considérés comme les gardiens de l'ordre établi par Dieu et donc de son autorité, ou comme ceux qui ont été les médiateurs de la révélation de Dieu pour nous. Les injurier, les calomnier alors, ressemble à une rébellion contre l'autorité de Dieu. » Ces hérétiques étaient en train de rejeter, voire même de se moquer de toute autorité, de toute révélation de la parole de Dieu. Et par ce rejet, par cette moquerie, ils injuriaient ceux qui avaient donné cette révélation, ceux qui avaient été utilisés pour donner cette révélation, ils injuriaient ceux qui avaient transmis cette parole. Un commentateur écrit que c'est un rejet de l'ordre moral sur lequel les anges président. Et un peu plus loin, ces intrus ont compris que la liberté chrétienne signifie la liberté de l'autorité morale et donc de l'autorité des anges. Cinquième caractéristique de cette autonomie de l'antinomisme, c'est sa prétention. C'est une autonomie prétentieuse. Jude écrit au verset 8 que ces intrus souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Que ces trois choses sont le résultat du fait qu'ils sont entraînés par leur rêverie. C'est une référence aux visions révélatrices, ou plutôt au fait que ces intrus prétendaient avoir eu des visions révélatrices. L'idée que la révélation de Dieu pouvait venir et est venue par des rêves et des songes n'est pas étrangère à l'Ancien Testament, ni même à la période apostolique dans le Nouveau Testament. Ça rappelle de plusieurs occasions, Jacob et l'échelle, Joseph et ses frères, Paul et l'appel du Macédonien, Pierre avant Corneille, l'annonce du Seigneur Jésus-Christ. Les anges ont été là. Mais ce qui se passe souvent, c'est que des faux prophètes affirment qu'ils ont reçu une nouvelle révélation de cette façon. Un commentateur explique qu'il semble que le problème auquel Jude était confronté était que sous le couvert d'une fausse révélation de Dieu, ces rêveurs revendiquaient une position de leadership inspirée au sein de l'Église. Et donc, l'accent est mis ici sur la nature contrefaite de leur revendication d'autorité qui pouvait justifier leur mode de vie et leur message. Or, la parole de Dieu parle de façon directe et sévère à ceux qui revendiquent faussement une position comme ces intrus. Deutéronome 13, par exemple, où nous lisons à partir du verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. » Donc, même s'il y a accomplissement du signe ou du prodige, l'Éternel dit, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. » Pourquoi ? Comme le dit à la fin du verset 2, « Parce que le but de ce faux prophète ou de ce songeur, c'était d'aller après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. » Or, l'Éternel rappelle, « Vous saisirez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez. » Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. Que devait faire le peuple d'Israël avec les faux prophètes et les songeurs? Le prophète ou le songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a délivré de la maison de serviture. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. L'apôtre Paul va faire référence à ce dernier verset quand il écrit en 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13, où il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Paul écrit en Galates chapitre 1, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Un peu plus loin, « Même si un ange vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché ou de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire rejetez-le, séparez-vous de lui. » Le même avertissement en Colossiens, chapitre qu'on a lu, le passage qu'on a lu tout à l'heure. Le prophète Jérémie donne le point de vue de Dieu concernant ceux qui font de telles revendications. Jérémie 23, verset 32. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Ce genre de message antinomien de la part de ceux qui ont des positions d'influence et d'autorité dans l'Église, on peut l'entendre de manière très ouverte dans beaucoup d'Églises encore aujourd'hui. Mais rappelons-nous que cela peut être arrivé de manière très subtile. C'était le cas de l'Église, de la situation à laquelle Jude s'adresse au premier siècle. Ces hommes se sont infiltrés dans l'Église. Ils utilisaient le vocabulaire de la grâce. Il y avait donc un réel danger pour ces croyants à qui Jude s'adresse d'être influencés par ces hommes. Leur mode de vie, leur enseignement repose entièrement sur de fausses prétentions et non sur la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, l'audace de l'antinomisme. Jude utilise au verset 9 une analogie pour condamner l'audace de l'antinomisme. Et encore une fois, Jude va utiliser un exemple historique pour appuyer son argumentation. Le problème avec l'exemple qu'il utilise, ou la difficulté, c'est qu'elle ne se trouve nulle part dans la Bible. Deutéronome 34 nous décrit la mort et l'inhumation de Moïse. Deutéronome 34, verset 5, « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Bath-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Ça, c'est ce que Deutéronome nous dit. Mais ce passage de Jude, ce passage de Deutéronome ne contient pas les détails que Jude nous donne ici au verset 9. Et Jude fait référence à une tradition qui se trouve en dehors de la Bible. Les experts pensent avoir trouvé la source de cette tradition, mais ne sont pas 100% sûrs. Mais il est clair que Jude fait référence à une tradition écrite. Et c'est quelque chose que les lecteurs auxquels Jude s'adresse connaissaient. Rappelez-vous, c'est ce qu'il dit au verset 5, « Vous qui savez fort bien toutes ces choses. » Donc il ne leur raconte pas de nouvelles choses. Ces lecteurs connaissaient ces choses. Ils pouvaient comprendre pourquoi Jude utilise cette tradition pour appuyer son argumentation, comme ils ont pu comprendre pourquoi Jude a fait référence à Genèse chapitre 6 en parlant des anges. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et on en a parlé un petit peu hier soir quand on s'est retrouvés, beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire d'Israël qui n'ont pas été écrites dans la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites dans d'autres livres, même dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans 1 et 2 Chroniques, l'auteur fait référence au livre des rois d'Israël, aux chroniques du roi David, au livre des rois de Juda et d'Israël, au livre des rois. Ces livres ne font pas partie du canon de la Bible, de l'ensemble des livres de la Bible. Et ces livres et ces traditions qui concernent l'histoire d'Israël contiennent un mélange de vérité et de folklore, de certitude et d'incertitude. Et la source à laquelle Jude fait référence n'est pas différente de ces livres. Mais l'usage que Jude fait de cette source extra-biblique ne nous oblige pas à croire que Jude pensait que cette source était inspirée. Que tout ce que contenait cette source était vrai à 100%. Par contre, ce que nous pouvons croire, c'est que par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Jude confirme que cette histoire en particulier, qui se trouve dans une source extra-biblique de l'histoire d'Israël, que cette histoire est vraie. Un commentateur écrit « Nous devons nous en remettre à notre foi dans l'inspiration de la Bible. » Jude a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui l'a conduit à ce passage en particulier et l'a empêché de citer d'autres textes qui ne contiennent pas d'histoire vraie. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ce que Jude veut dire. Et l'essentiel de la tradition à laquelle Jude fait référence se résume ainsi. Satan demande que Moïse n'ait pas un enterrement honorable parce que Moïse était coupable, selon la loi. Et selon la tradition, l'accusateur, autre nom donné à Satan, vient porter des accusations contre Moïse, en particulier parce que Moïse a tué un Égyptien, alors qu'il était en Égypte, avant l'Exode. L'accusation est que Moïse, selon l'accusateur, selon Satan, s'est lui-même disqualifié d'un enterrement convenable en tant que membre du peuple de Dieu à cause de sa culpabilité, à cause du meurtre qu'il a commis. Et l'ange Michel a répondu à Satan, « Que le Seigneur te réprime. » Et donc, Jude écrit au verset 9, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Notez le mot « injurieux » qu'on a vu au verset 9, au 8, qu'on retrouve ici, qu'on retrouvera au verset 10, un de ces mots-clés. Ce n'est pas utilisé dans le sens de blasphème ici contre une divinité, mais de calomnie pour dénigrer, pour insulter, pour rabaisser. Beaucoup de commentateurs pensent que Jude dit que l'archange Michel refusait de s'insurger contre le diable, de le rabaisser, de le dénigrer. Don Carson dit simplement « Il est difficile de comprendre comment il est possible de calomnier le diable. » La meilleure façon de comprendre ce que Jude dit ici, c'est de réaliser que tout cela se passe dans le contexte d'un litige juridique. Le vocabulaire utilisé est le vocabulaire juridique. C'est le vocabulaire de la Cour de justice. L'archange Michel conteste ces termes juridiques. L'idée ici, c'est que l'archange Michel n'a pas eu la prétention d'émettre la condamnation légale à l'encontre du diable qui accusait Moïse. Cette expression qui est traduite ici « n'osa pas porter contre lui », c'est une expression, encore une fois, qui est utilisée dans le contexte juridique, une expression qui comprend l'idée de châtiment, de prononcer un jugement. Et on a donc ici l'archange Michel, le défenseur, qui n'est pas le juge. Il n'a pas la prétention de prononcer le verdict de culpabilité contre Satan. Alors que Satan est bien entendu coupable de calomnie envers Moïse. Mais l'archange Michel ne prend pas sur lui de porter ce jugement. Il n'a pas la prétention de le faire. Il n'a pas oser faire une telle chose, il n'a pas l'audace de faire une telle chose, parce que ce n'est pas son rôle. Et ce que Jude fait ici, c'est d'argumenter du plus grand au plus petit. Voilà l'archange Michel, l'un des plus hauts placés dans la hiérarchie des anges, qui n'a pas osé aller au-delà de sa propre autorité. Alors si un archange n'a pas osé prononcer un jugement sur Satan ou rejeter les accusations de Satan de sa propre autorité, comment ces intrus osent-ils se placer au-dessus des anges qui ont transmis la parole de Dieu? Comment osent-ils mépriser l'autorité du Seigneur Jésus-Christ quand la parole les déclare coupables? Le jugement ultime en matière de culpabilité devant Dieu, c'est la prérogative de Dieu et de Dieu seul. Quand l'archange dit à Satan que le Seigneur te réprime, ce terme réprimé a un sens beaucoup plus profond que simplement une réprimande ou gronder quelqu'un. Cette déclaration, bien sûr, dirige les regards vers le jugement final, où Dieu condamnera, il jugera et il condamnera définitivement ses ennemis. Le point que Jude fait, c'est que l'archange Michel n'a pas prononcé de jugement contre celui qui a rabaissé Moïse, parce que l'archange ne pouvait pas le faire de sa propre autorité, même si c'est très clair que l'accusateur est coupable. Le cas que Satan faisait contre Moïse dans ses accusations ne pouvait être réglé que dans la salle d'audience ultime, par Dieu lui-même. Un commentateur compare ces intrus et il dit, même si ces intrus étaient aussi justes que Moïse et avaient l'autorité d'un archange, ils ne seraient pas au-dessus des accusations de péché venant de la parole de Dieu. L'analogie avec l'archange Michel, Jude l'utilise pour condamner l'audace de ces intrus, de ces faux docteurs, en rejetant toute morale, toute contrainte, toute soumission à la parole de Dieu. Ces intrus prennent la place de Dieu, ou ils veulent prendre la place de Dieu, le juge. Et c'est l'essence de l'antinomisme, c'est de se placer au-dessus de toute accusation, de ne se soumettre à aucune autorité. Et Jude dit, mais même le plus élevé des archanges n'oserait faire une chose pareille. Ces antinomiens, nous dit un commentateur, n'autoriseront aucune voix, aucune autorité autre que la leur. Leur insolence est hors de mesure. Voilà, on a vu l'autonomie de l'antinomisme, l'audace de l'antinomisme, le troisième point, le troisième élément. Ce sont les instincts et l'ignorance que produit l'antinomisme. Et Jude revient, verset 10, à parler de ces intrus. Il retourne à ce qu'il disait au verset 8. Et contrairement à l'archange Michel qui n'osait pas prononcer un jugement contre quelque chose qui pourtant était vrai, ces gens, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils revendiquent des connaissances qui font autorité, et donc ils prétendent qu'ils n'ont plus besoin de se soumettre à la parole de Dieu. En réalité, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils considèrent le péché à la légère. Ils rejettent toute obligation d'obéir au Seigneur, alors qu'un vrai croyant qui a compris la grâce de Dieu en Jésus-Christ va s'exclamer « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché ?» Ou citer plein d'autres cantiques, j'en ai mentionné un autre, sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Mais ces hommes révèlent clairement qu'ils n'ont pas compris la grâce de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Ils n'ont pas compris la puissance de transformation de l'Évangile, la puissance de grandir, de changer. Ils ont le mot « grâce » sur leurs lèvres, mais ce n'est qu'un habit dont ils se couvrent pour continuer à vivre dans le péché. Ils ne peuvent pas dire, par exemple, avec le psalmiste de ce psaume 19, au verset 9, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Dans leur indépendance arrogante, égoïste, ils se moquent, ils ridiculisent la foi biblique, la spiritualité biblique, quelque chose en réalité qu'ils ignorent. Ils ne comprennent pas la réalité que le pardon des péchés est venu au prix le plus élevé, quand la colère de Dieu devait trouver satisfaction, qu'elle devait être détournée de ceux qui la méritaient pour être éteinte et absorbée par le seul qui ne la méritait pas. Ils n'avaient pas les yeux spirituels pour comprendre ce que le psalmiste décrit dans le psaume 130, versets 3 et 4. « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Quand on réalise tout ce qui est impliqué pour effacer nos péchés, cela devrait nous amener à une adoration, à une louange remplie d'humilité, un amour toujours plus grand pour Dieu, une vie d'obéissance à la parole toujours plus grande. Soyons clairs ici, Jude ne parle pas du chrétien qui lutte avec le péché. Jude ne parle pas du chrétien qui se trouve trop souvent faible, ou qui échoue, ou qui trébuche. Non, il parle ici de... Il condamne l'antinomisme qui est à l'opposé de ce diagnostic que l'apôtre Paul fait en Romains 7. « Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais, misérable que je suis. » Ça, c'est le chrétien qui fait l'expérience de ce combat interne entre le vieil homme et le nouvel homme, entre la chair et l'esprit. Alors que ce que Jude condamne et décrit et condamne ici, c'est cette attitude insouciante, cette absence de lutte, de combat contre le péché, parce que ces hommes prennent le péché à la légère. Il parle de ce à quoi on ne peut pas exhorter à l'obéissance, parce qu'ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu, ils pensent être au-dessus. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas le légalisme. Notre devoir d'obéissance en tant que chrétien ne ressemble en rien à la perversion ou à la minimisation de la parole de Dieu comme l'ont fait les pharisiens. Ces hommes, dit Jude, parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils ne comprennent pas que la réponse d'un cœur régénéré qui contemple la croix de Jésus-Christ, cette réponse est « Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie et mon cœur. » C'est ce qu'un tel amour demande. Le mode de vie, le message de ces hommes trahissait le fait qu'en réalité, ils étaient incroyants. Ils étaient incroyants. L'apôtre Paul décrit en 1 Corinthiens 2, 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et Jude continue au verset 10 en parlant de ce que ces hommes comprennent. « Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. » Par ces paroles, Jude rabaisse leur comportement au niveau de celui des bêtes sauvages qui ne suivent que leurs pulsions naturelles. Un commentateur explique que ce terme que l'on traduit ici naturellement veut dire que les actions immorales des faux enseignants découlent de leur état déchu. Parce qu'ils sont gouvernés par leurs instincts naturels déchus, ils sont comme des animaux dépourvus de raisonnement, incapables d'agir sur la base de rien d'autre que leur instinct. Et toutes leurs revendications à une connaissance supérieure qui ferait autorité leur utilisation frauduleuse de la grâce, tout ce qu'ils enseignent, tout ce qu'ils représentent. Jude écarte tout cela et il dit, mais jouons carte sur table, appelons un chat un chat. Ces hommes sont comme des brutes, comme des animaux sauvages, dépourvus de raisonnement. Ils ne vivent que pour satisfaire leurs pulsions naturelles. Bien qu'ils prétendent, dit un commentateur, bien qu'ils prétendent être guidés par une perspicacité spirituelle particulière, acquise dans les visions révélatrices, ces intrus suivent en fait les instincts sexuels qu'ils partagent avec les animaux. Le mensonge de l'humanisme laïque, en particulier la révolution sexuelle de ces 50 dernières années, nous dit que lorsque l'on se libère de toute contrainte, et en particulier de toute contrainte divine, on découvre la liberté d'être ce que nous pouvons être. Mais en réalité, ce que cela fait, c'est de rabaisser l'homme au niveau des animaux dépourvus de raisonnement, qui ne suivent que leurs pulsions de base. Et cela montre que ces hommes, ces personnes, ont un maître auquel ils obéissent, leur nature déchue. Mais il y a aussi une interdépendance entre accomplir les désirs de la chair et voir l'essence spirituelle être émoussée. Une sorte de spirale complémentaire. Plus on satisfait les pulsions de la chair, plus les sens spirituels sont émoussés. Et c'est un avertissement pour chacun de nous de veiller sur notre âme. C'est une spirale interdépendante, c'est une spirale qui ne va que dans un sens. Jude dit, notre version dit, ils se corrompent. Mais c'est quelque chose de plus accablant, ils se détruisent. La fin de ces hommes est certaine, ils seront détruits par ces choses pour lesquelles ils vivent aujourd'hui. Alors ce n'est pas une libération de rejeter les contraintes morales, de vivre une vie autonome selon nos propres normes. Cela ne conduit qu'à la ruine. Quand les hommes vivent par instinct, dit un commentateur, ils abandonnent même la loi naturelle et par conséquent ils périssent. Ils se placent au même niveau que les animaux. Mais à cause de leur refus d'obéir même les lois que Dieu a placées dans la nature, ils sont détruits. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Alors pour conclure, revenons à la scène au verset 9, quand Moïse était accusé d'être coupable sous la loi par l'accusateur, lui-même, l'archange, n'a pas osé répondre de sa propre autorité, de rejeter ses accusations, mais il a fait appel au Seigneur, que le Seigneur te réprime. Et Jude fait référence à un langage que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, en Zacharie chapitre 3. Zacharie voit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué est couvert de vêtements sales. Mais là, ce n'est plus l'archange qui s'adresse à Satan, c'est l'Éternel lui-même. Et en Zacharie 3, verset 2, l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Parce que c'est l'Éternel seul qui est le vrai juge, mais aussi parce que c'est l'Éternel seul qui est le vrai sauveur. Et c'est lui, Dieu seul, qui, en Jésus-Christ, écarte les accusations de Satan, enlève la culpabilité. Le texte de Zacharie 3 continue en disant que l'on entend qu'on a enlevé les habits sales de Josué pour le revêtir d'habits de fête. Il y a une autre référence à l'accusateur, on la trouve en Apocalypse 12, versets 10 et 11. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le problème pour chaque être humain, c'est que les accusations de l'accusateur sont vraies. Ils n'ont donc pas de preuves pour nous condamner dans la Cour suprême du ciel. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelque chose qui peut laver nos péchés. Le sang de l'agneau, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes venus à Christ dans la repentance et la foi, nous avons reçu un cœur nouveau, nos péchés ont été lavés, nous avons reçu de nouveaux désirs, de nouveaux instincts, une vie nouvelle, sous un maître qui est bon, qui est plein de douceur, plein de grâce. Et la réponse à l'antinomisme de ces intrus, ce n'est pas essayer de faire mieux, mais c'est de mieux comprendre l'Évangile, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, et de vivre selon cet Évangile. Ce serait terrible de vivre notre vie comme si nous étions le capitaine de notre âme, le maître de notre destin, comme le dit le poème au début. Parce que, si c'était le cas, il n'y a qu'une destinée. L'homme a commencé sa vie en étant séparé de Dieu, et s'il la dirige, il va terminer dans la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut diriger notre âme, qui peut nous amener dans une destinée de gloire et de bonheur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est encore un jour de grâce où nous pouvons venir à lui dans la repentance et la foi, comme le dit ce cantique dont la musique jouait au début de notre live. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Jésus-Christ, dans Matthieu 10, verset 28, dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le croyant, lui, peut vivre dans un monde qui est de plus en plus effrayant, parce qu'il sait que tout ce qui était nécessaire pour le sauver de la colère de Dieu a été fait dans sa totalité. Tout est accompli. Pour l'incroyant, le message est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, pour devenir ce que l'homme ne peut pas devenir par lui-même, un enfant de Dieu qui grandit dans la grâce de Dieu. Et pour comprendre avec tous les vrais croyants que ce n'est qu'en Christ que nous devons et que nous pouvons nous cacher, que ce n'est qu'en Christ que nous sommes libres de toute condamnation. Et ce matin, je me suis rappelé de ce cantique de John Newton, qui dit ceci, « Sois mon bouclier et ma cachette, afin que, à l'abri à tes côtés, je puisse faire face à mon accusateur féroce et lui dire que tu es mort. » Alors quand l'accusateur vient nous rappeler nos manquements, il n'hésitera pas à le faire. Ne regardons pas à nous-mêmes, ne croyons pas que nous sommes au-dessus de ce que la parole de Dieu dit, mais rappelons-nous et rappelons à l'accusateur que même si nous méritons la condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Christ est mort pour nous. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.